Grande Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Und femme. Und femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis.
Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Vous savez que pendant tout l'été, dans Remue Ménage Onde Femme Radio Zone 93.8, nous vous proposons des rediffusions de nos meilleures émissions de l'année, ou du moins les plus intéressantes à notre avis, pour être rediffusées. Aujourd'hui, comme annoncé il y a 15 jours, nous vous proposons un deuxième volet sur le Festival international du film de femmes de Créteil, concernant en particulier les femmes iraniennes à travers un film tel qu'il nous a été proposé à Créteil. Nous étions en direct de nos studios à Ferney et c'était le 12 avril dernier. Remue Ménage, Radio Zone 93.8. La première, c'était il y a 15 jours, où nous vous avions parlé d'abord d'un des films primés, Eden Valley, réalisé par le collectif Amber Team, ce collectif qui travaille en Angleterre. Et puis, nous avions eu l'interview accordée par la réalisatrice algérienne du film Le démon au féminin, une interview importante de cette femme courageuse qui a continué à faire du cinéma envers et contre tout. Et puis aujourd'hui, eh bien, un deuxième volet consacré entièrement aux femmes iraniennes. Le Festival international de films de Créteil avait décidé de consacrer une section particulièrement sur le thème « Femmes, islam ou tradition ?» point d'interrogation. Et cette section réunissait à la fois des films, des vidéos, qui tous avaient le point commun d'aborder les rapports des sociétés et des individus par rapport à l'islam, mais dans le but d'élargir le débat et bien sûr de l'approfondir, parce qu'il serait bien trop simpliste de confondre certaines pratiques ancestrales et l'islam, ou bien trop injuste de réduire l'islam à tous ses excès. Alors le port du voile, l'excision, la virginité, l'exorcisme par exemple, sont-ils des préceptes de l'islam ou bien font-ils partie des traditions bien ancrées dans les régions conquises par l'islam? La polygamie, la répudiation, etc. sont-elles uniquement le lot des femmes dites de l'islam ou bien sont-elles aussi celui des femmes en général? Alors, c'est un peu toutes les questions qu'ont posées les divers films qui ont été montrés, réalisés par des femmes des divers pays du Maghreb, que ce soit un film de la Libanaise Randa Sher Al-Sabah ou bien l'Algérienne Hafsa Zinaï Koudil dont nous parlions. Bref, tous ces films ne se contentent pas de témoigner et de dénoncer les risques encourus, surtout par les femmes, au nom de la religion. Ils éclairent d'un autre regard ce phénomène de plus en plus menaçant que représente l'aveuglement des masses hypnotisées par les fanatismes de tous bords. Et ils mettent le doigt sur l'ignorance érigée en quelque sorte en dogme qui risque de menacer les sociétés à l'intolérance, de mener les sociétés à l'intolérance. Et c'est peut-être là, bien sûr, que le poids des traditions et le poids de la religion s'interpénètrent, se confondent et pour souvent ne faire qu'un seul et même outil de répression, bien sûr non seulement contre les femmes mais contre toute la société. Mais ces films, c'est aussi l'occasion de donner la parole à certaines femmes, donner la parole parce que dans leur propre pays, elles ne peuvent pas ou il est extrêmement dangereux de prendre la parole. Et c'est le cas des réalisatrices ou des femmes en général en Iran, réalisatrices comme Jamila Nedai qui a présenté un film en vidéo qui a pour titre justement Parole.
وتنتحي يا ربي واصفها كل
Alors, de quoi parle le film de Jamila Nedaif, réalisatrice iranienne, film qui a pour titre « Parole ». Eh bien, d'abord, il faut dire que c'est un film vidéo et que ce n'est pas un hasard si Jamila Nedaif a dû utiliser le support de la vidéo. Parce qu'elle nous l'a expliqué très bien, c'est qu'elle a fait ce film complètement en urgence, vous pouvez l'imaginer. Elle n'avait aucun moyen pour réaliser un autre type de film. Et son film va être une sorte d'interview, d'entretien, mais qu'elle qualifie de communiqué. Je vais vous expliquer tout de suite ce que cela veut dire. Mais en fait, donc, entretien avec une romancière iranienne qui a pour nom Mahshid Amirshahi, qui est la première femme écrivaine qui a pris la défense de Salman Rushdie alors qu'il avait été condamné à mort par Khomeini. Pourquoi cet entretien avec Mahshid Amirshahi ? Eh bien parce que Jamila Nedaif s'est dit avec la romancière qu'elle rencontre et qu'elle connaît bien, qu'il fallait absolument profiter de cet espace que ferait le Festival international de films de femmes de Créteil, dans cette section femmes, islam ou tradition, pour parler des femmes iraniennes dont on parle trop peu souvent, dont on suppose un certain nombre de choses et très souvent à tort parce que les informations arrivent si peu jusqu'à nous. Et donc, n'ayant les moyens de faire aucun autre film autre que celui d'une interview, eh bien, elle a décidé, avec Mahshid Amirshahi, de faire une sorte de communiqué concernant les femmes iraniennes. Communiqué, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est qu'elles ont fait une sorte d'interview filmée en direct. Il n'y a pas eu de tournage, il y a eu simplement une caméra posée devant Mahshid Amirshahi et qui a répondu à un certain nombre de questions que lui avait posées juste avant Jamila Nedaif, et elles ont écrit ce texte ensemble qui est un communiqué aux autres femmes du monde pour savoir ce qui se passe en Iran. C'est un texte qui est quasiment lu par Mahshid Amirshahi. Cette lecture a parfois gêné les spectatrices de Créteil, nous en reparlerons. Mais les deux femmes le disent clairement, nous voulons tout simplement parler, parce que dans notre pays, nous sommes sur la liste des intégristes qui nous combattent, qui veulent nous éliminer par la violence. Nous ne voulons pas nous battre avec le moyen de la violence. Nous sommes toujours, depuis toujours, battus comme militantes pour la démocratie. Mais dans notre pays, vouloir se battre pour la démocratie, c'est être éliminé, c'est commettre le crime de parler, de s'opposer. Alors, toutes les phrases devant être contrôlées, c'est pour ça que le texte a été écrit et n'a été dit qu'une seule fois, parce que de toute façon, Mahshid Amirshahi n'avait pas le temps de faire autrement que de simplement le dire une seule fois et de nous le dire quasi en direct pour nous. Et de toute façon, avec un sous-titre clair et net, dans ce pays, dans l'Iran, le pouvoir ne parle pas, il tue. Et pourtant, nous avons décidé de parler, disent ma chère Amirshahi, la romancière iranienne et la réalisatrice Jamila Nedaif. Jamila Nedaif est aujourd'hui chef monteuse, elle travaille en France où elle est réfugiée depuis 1980. Et ce film lui a coûté 3000 francs français, c'est-à-dire la pellicule et une journée de montage dans son lieu de travail. Elle dit « Je ne peux rien faire d'autre, rien qu'une journée de montage, c'est 10 000 francs de location français. Inimaginable de pouvoir faire un film autrement. J'aurais beaucoup aimé faire un film, par exemple, qui aurait eu pour titre « Expression des femmes en exil », savoir pourquoi les femmes iraniennes ont quitté le pays, qu'est-ce qu'elles ont dû abandonner et qu'est-ce que finalement elles font lorsqu'elles sont à l'extérieur. Mais depuis 10 ans qu'elle espère faire ce film, elle n'a pas trouver l'argent pour le réaliser. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire écouter une bonne partie de la déclaration que fait dans ce film Mahshid Amirshahi et puis des extraits à la fois du débat qui a eu lieu à Créteil après le passage du film et puis une interview de Jamila Nedaif qu'a réalisé pour nous Laurence Brun qui, je vous le rappelle, est toujours notre antenne parisienne à Créteil lorsque malheureusement je n'y suis pas. Parce que je ne peux jamais suivre tout le festival en entier. Alors voilà, tout de suite, eh bien, le film au niveau de la bande sonore, ce communiqué, cet entretien avec la romancière iranienne Mahshid Amirshahi à propos des femmes en Iran.
Les changements ainsi imposés à la société iranienne ont été particulièrement spectaculaires. Surtout si nous pensons un moment au fait que la défense des droits des femmes est partout à l'ordre du jour et qu'elle fait l'objet de diverses déclarations et de résolutions de la part de toutes sortes d'organisations à travers le monde. Sur quoi est basée cette insouciance à l'égard du sort des femmes iraniennes ? Comment leur sort a pu paraître plus ou moins admissible aux yeux de tous et de chacun ? Il me semble qu'on doit chercher la raison de cette attitude dans un culturalisme mal défini, un reniement des valeurs universelles qui pousse à considérer le régime de Mullah, sinon comme vaguement représentatif des Iraniens, de moins comme une émanation de leur culture et de ce fait légitime, sinon tolérable, faute mieux. En général, c'est l'imagerie révolutionnaire qui nourrit cette bonne disposition à l'égard de Mullah. Nous nous souvenons tous des manifestations réunissant des centaines de milliers de personnes qui mirent fin au régime du Shah. Et bien sûr, les milliers de femmes qui prirent part à ces manifestations et dont la majorité portait le tchador. Elle était là à esconder du slogan du Shah et le signe le plus évident de leur opposition était justement ce fameux tchador. Leur attifement fut considéré non pas comme répondant à une situation particulière, mais comme la renaissance d'une tradition séculaire. Cette interprétation parut d'autant plus vraisemblable qu'un grand nombre de femmes éduquées ou intellectuelles avaient adopté la tenue islamique et justifié le port de tchador par de fumeux discours idéologiques. Les unes déclarèrent avoir ainsi trouvé leur liberté, les autres leur identité. Certaines prétendaient participer à la renaissance de la foi et ainsi de suite. Que pourrait-on demander aux autres quand les Iraniennes elles-mêmes paraissaient si convaincus de la nécessité de porter le voile et que leur porte-parole autodésignée, bien entendu, s'empressait d'expliquer les raisons profondes de cette mutation à qui voulait l'entendre. Ayant vécu depuis plus de deux générations dans un pays où les mollahs n'avaient aucun moyen d'imposer leur vue, dans la direction des affaires ni dans les problèmes de société, elle n'avait aucune idée des rigueurs d'un régime théocratique. Il n'est nul besoin de souligner l'utilité de cette attitude pour les mollahs, Khomeini en tête, qui voyaient ainsi leur soutien populaire s'élargir parmi un groupe qui devait leur être hostile en principe. Le désir de changement et le rejet du régime de Shah étaient si forts qu'ils ne laissaient que très peu de place pour la lucidité de quelques-uns. D'une part, on avait affaire à des femmes qui, comme beaucoup d'autres, pensaient d'atteindre une meilleure vie à travers le changement, n'ayant aucune idée de la création d'une république islamique dont le contenu restait à définir, et d'autre part à des mollahs qui avaient une idée plus ou moins claire d'une telle république et de la place qu'ils comptaient y réserver aux femmes. Quelle était cette place? Il fallut attendre la prise de pouvoir par les mollahs pour être renseigné, car les partisans de Khomeini n'étaient guère loquaces là-dessus. Khomeini lui-même n'avait pas daigné y faire allusion dans son manifeste politique. Chaque fois que la question de la condition féminine était posée, lui ou ses lieutenants l'éludaient de la même façon. Il commençait par critiquer l'état de servilité dans lequel les femmes étaient tenues par le régime du Shah, Ils dénonçaient le pouvoir qui les avait réduits à des femmes objets et indiquaient qu'il allait mettre fin à cet esclavage. Quant à la place de la femme dans la société future, selon eux, les femmes allaient être à l'abri de toute atteinte. Ils se faisaient même une si haute idée de la femme qu'ils considéraient tout regard étranger posé sur elle comme une atteinte. Mais ils se gardaient bien de le dire. L'exemple de femmes musulmanes qu'ils mettaient en avant était celle de Fatima, la fille de Mahomet. Au fait, les mérites de cette dame se résument à avoir mis au monde, coup sur coup, deux imams. Elle a aussi beaucoup pleuré durant sa vie, et cette double fécondité paraît être sa principale qualité. Au fond, l'idée que les mollahs se faisaient de la femme avait ses sources dans les hagiographies du genre que je vous ai indiquées et dans les textes de droit canon vieux de plusieurs siècles. Car il ne faut pas oublier que la formation dispensée dans les écoles coraniques est essentiellement axée sur le droit canon. Les autres matières enseignées sont tout à fait secondaires. Et la situation des femmes dans le droit canon chiite n'est guère enviable. Les exemples de l'application de ces règles abondent, mais j'ai toujours craint que leur caractère trop barbare ne les place si loin de la sensibilité de mes interlocuteurs occidentaux qu'ils ne paraissent de ce fait irréels et quasi fantastiques, donc totalement inutiles. Mais il faut ce qu'il faut, et je vais vous proposer deux exemples. Il y a quelque temps, un certain Tari Zavoli avogla sa femme sous prétexte qu'elle regardait fréquemment les hommes à travers la fenêtre de leur maison. Acte d'une extrême sauvagerie, vous en conviendrez, mais tout à fait significatif dans le climat créé par le mollah. Le tribunal islamique se pencha sur l'affaire, car il ne faut pas oublier que 36 des articles du code de Talion sont consacrés au problème de la chasteté des femmes. En fin de compte, les juges islamiques établirent l'innocence de cette pauvre femme, car la fenêtre donnait purement et simplement sur un mur de ciment. Selon vous, comment compenser cette injustice? Les juges trouvèrent juste de permettre à la victime d'aveugler un œil de son mari en compensation des deux qu'elle avait perdus. On ne pourrait mieux souligner qu'une femme, en entier ou en morceaux, ne veut que la moitié d'un homme. Le second exemple est beaucoup plus banal, car il s'agit de la lapidation. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette peine qui a été maintes fois appliquée en Iran par le mollah. Et vous savez qu'elle vise les femmes adultères. Peut-être l'évocation de cette peine vous a fait plutôt penser à la Bible, à des personnages légendaires, ou à des peuples au nom imprononçable, plus qu'à des femmes vivant au XXe siècle. Je ne vous apprendrai pas grand-chose en disant que les lapidations ont été nombreuses en Iran, mais peut-être j'aurai quelques mérites à vous renseigner que dans certains cas au moins, elles ont été précédées d'une centaine de coups de fouet et qu'elles ont toujours été exécuté avec soin. L'histoire moderne des femmes iraniennes commence avec la révolution de 1906, l'acquisition de droits de plus en plus larges, la participation de plus en plus grande aux différents secteurs d'activité, la possibilité de faire des études poussées, l'obtention de droits de vote constitue le fil conducteur de cette histoire. En un mot, la société devant laquelle les mollahs se trouvaient n'avait rien à voir avec leurs idées ni avec la société du temps de Mahomet. C'était une société modernisée où les femmes avaient une place importante dans les secteurs de l'éducation, dans l'administration, les usines et j'en passe. Les pousser en arrière sur tous les points et en même temps aurait été impossible, d'autant plus qu'elles ne comptaient pas se laisser faire et qu'elles furent très promptes à défendre leurs droits dans l'Iran post-révolutionnaire. N'oublions pas que les premières tentatives pour imposer le port du voile échouèrent devant les manifestations des femmes avant de reprendre de plus belle et de réussir une fois les moyens de coercition nécessaires réunis. Les mollahs auraient aimé se passer des femmes et les reléguer une fois pour toutes aux tâches ménagères, mais ils n'avaient pas le moyen de le faire. Ils ne pouvaient se passer de cette énorme force de travail qui avait gagné sa place au sein de la société. En plus, les mollahs n'avaient ni réussi à élargir leur idéologie au point de la rendre assez puissante pour répondre aux questions que pose la direction d'une société moderne, ni parvenu à mettre sur pied un parti du type léniniste qui leur aurait permis de mieux maîtriser cette société et de la faire remodeler d'après leur projet totalitaire. Ils agissaient donc dans la mesure de leurs forces et par priorité. Par exemple, les femmes chassées des fonctions de justice le furent pour de bon. Mais les dizaines de milliers d'enseignantes gardèrent leur emploi. Le régime se mit même en tête de favoriser les études gynécologiques parmi les femmes pour que les médecins de sexe masculin aient le moins l'occasion de toucher l'intimité de leurs patientes. Une façon comme une autre de sauver l'honneur de la République de Dieu. On trouva aussi quelques femmes pour les envoyer à l'Assemblée des Mollahs. Elles avaient généralement hérité leur siège d'un mari ou d'un père. Malgré tous ces compromis, ils n'oublièrent pas de reléguer les citoyennes de l'Iran à un statut de demi-citoyen, leur retirant entre autres leurs principaux droits en matière de mariage, de divorce et de garde d'enfants. En échange, ils les laissèrent libres de contacter des mariages dits temporaires et de participer ainsi à ce qu'il est convenu d'appeler une prostitution religieusement encouragée. Ils réussirent surtout à créer une hostilité générale à l'égard des femmes, hostilité qui n'est pas toujours légalisée, mais qui est très réelle et parfois plus forte que la cruauté exprimée par les lois mêmes. Il est commode de comparer les prétentions idéologiques des mollahs avec les résultats qu'ils ont obtenus sur le terrain et d'insister sur l'écart qui les sépare. Cela évoque le cas des nazis. Ces derniers ne voulaient que des femmes au foyer, bonnes mères et bonnes épouses, mettant au monde les futurs soldats du Reich. Mais une fois au pouvoir, ils furent obligés d'accepter les nouveaux rôles joués par les femmes dans la société allemande. Les religieux iraniens comptaient aussi reléguer les femmes aux tâches ménagères. Ils ont dû, en fin de compte, les laisser prendre une part non négligeable aux activités sociales. Mais en réussissant à les asservir à l'arbitraire d'un régime qui les méprise et en leur retirant bon nombre de leurs droits, c'est le seul domaine où, malgré leur faiblesse d'organisation, ils ont réussi mieux que leurs prédécesseurs fascistes. Certains et certaines vont jusqu'à présenter l'insuccès relatif des mollahs, mesuré à l'aune de leur idéologie, comme l'indice d'une meilleure compréhension de la société moderne et de l'assouplissement de leur position à l'égard des femmes. Mon point de vue est tout différent. Et je pense qu'on n'hérite pas de ceux et de celles qu'on assassine. Au lieu de féliciter les mollahs pour leur défaite relative, il faut les pousser de plus en plus loin et ouvrir ainsi la voie à la création d'une démocratie laïque en Iran. C'est là-dessus que je voudrais conclure. La constante détermination des mollahs pour la mise à mort de Rushdie, ainsi que dans la mise au pas des femmes, n'a rien d'accessoire. Ces résolutions sont l'expression des tendances les plus profondes de ce régime et proviennent de la volonté de faire régner la loi divine sur la terre. Faire reculer les mollahs sur ces deux points est la seule façon de les faire abdiquer de leurs prétentions sans limite. Barrer la route à l'intégrisme religieux qui, en cette fin de XXe siècle, a pris le relais des autres totalitarismes et une tâche qui s'impose non seulement à tous ceux qui subissent son joug, mais aussi à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Aucun totalitarisme n'est mort à sa péripétie. Le fascisme religieux ne fait pas exception et il ne mourra que quand son cœur s'arrêtera de battre. Ce cœur bat à Téhéran.